partout en Ile-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
Nous accueillons un Valdoisien ce matin, comme régulièrement. D'ailleurs, nous allons parler avec lui de musique. Détendez-vous, vous êtes sur la plus belle des radios valdoisiennes. C'est Luc Mariani. Bonjour Luc.
Bonjour Christophe.
Psychothérapeute, journaliste, animateur radio.
Oui.
Pas de télé, non hein?
Non, jamais de télé, non, non. Je n'aime pas trop l'image, en fait.
Et journaliste musical durant de nombreuses années.
Oui.
Pour une presse qui existe encore aujourd'hui.
Non, c'était des journaux qui s'appelaient Rock, Rock Hebdo, Rock en Stock. J'ai travaillé pour Jukebox, mais il n'existe plus depuis quelques 2 ans, 3 ans. J'ai travaillé aussi pour Le Monde de la Musique au début, dans les années 70. Ils faisaient encore des rubriques de rock et de pop. Voilà.
Et cette passion du rock, plus précisément, je crois que vous aimez aussi beaucoup la chanson française, c'est né ici, puisque ça fait de nombreuses années que vous habitez sur le Valois, cette envie de travailler, en tout cas, dans le milieu de la musique. Il y a eu un déclic particulier ou pas? C'est en écoutant un vinyle sur votre platine. C'était peut-être les Pink Floyd,
ou les
Deep Purple qui tournaient.
Je vais te tutoyer parce qu'on
oui,
se connaît.
Oui, on va se tutoyer. Hein.
Voilà,
bien
on va se tutoyer parce qu'on se connaît. Tu as tapé dans le mille avec les Pink Floyd. C'est vraiment le groupe, mon groupe préférence. Quand j'ai écouté les Pink Floyd en 68-69, j'en suis pas encore revenu, en fait. C'est un groupe que j'adore, toutes les époques d'ailleurs, et c'est ce qui m'a donné tout de suite envie de faire de la musique, surtout David Gilmour, le guitariste, Rick Wright, le clavier, et tout de suite j'ai eu envie. Et il y a eu un deuxième mouvement aussi qui était le Krautrock, le mouvement allemand avec Tangerine Dream, Kraftwerk, qui sont les plus grands représentants, mais aussi Ashra Temple. Et dès que j'ai entendu ces gens faire de la musique, Faust aussi, le groupe allemand Faust, j'ai vu qu'on pouvait faire de la musique en mélangeant du rock, en mélangeant des documents sonores, en mélangeant du classique, en mélangeant de l'électronique, en mélangeant des percussions, en mélangeant des musiques du monde. Et c'est un peu ma recherche de faire un petit peu en musique, de ne me donner aucun interdit de tous les sons, de tout ce qui peut exister. Tout rentre pour moi dans la composition musicale et pas uniquement la mélodie et l'harmonie.
C'était une bonne thérapie d'écouter tous ces artistes.
Oui.
Et du coup, Luc, ça t'a amené aussi quelques années après à être thérapeute finalement. Il y a aussi eu un déclic, il fallait arrêter ce métier de journaliste pour se consacrer à une autre profession. Il y a un lien de toute façon.
Oui, je pense qu'il y a un lien. Alors le lien que tu fais, c'est marrant parce que je me suis jamais tellement posé la question, effectivement. Là maintenant, je vais y réfléchir. Entre le lien de musique, ça s'est fait naturellement, et de la psychothérapie. Mais maintenant que tu me le dis, immédiatement, bien sûr qu'il y a un lien. C'est-à-dire que toute ma vie, je voulais faire de la musique, monter sur scène, jouer avec des musiciens, enregistrer mes propres projets, parce que je suis très très mauvais pour jouer avec les autres, si tu veux. C'est les gens qui viennent jouer sur mes projets, mais j'ai du mal, moi, à jouer sur les projets des autres. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de réflexes musicaux. C'est des choses qui me viennent comme ça, que je peux rêver la nuit. Il y a des morceaux d'ailleurs dans ce disque Living and Dying que j'ai rêvé la nuit. J'ai complètement rêvé la nuit et je les ai retranscrits le matin. Mais comme j'étais un peu introverti, j'avais du mal à. J'ai eu plusieurs propositions pour être dans des groupes, dans des studios d'enregistrement, même diriger des studios d'enregistrement. Mais j'ai toujours refusé parce que j'étais trop introverti. Et ça m'a amené bien sûr très rapidement à faire une psychothérapie assez longue, une psychanalyse en fait, une psychothérapie. Et de là, je suis devenu psychothérapeute, mais j'ai toujours continué la musique, mais comme quelque chose de l'ordre d'une intimité, de quelque chose qui me concernait moi, après que je pouvais partager avec les autres, mais voilà. Donc il y a un lien, oui, bien sûr.
C'est une bonne thérapie, la musique, de toute façon. Est-ce que c'est éventuellement conseillé aussi d'écouter certaines musiques pour se recentrer, pour aussi évacuer certaines choses?
Oui, il y a des gens qui le font. Pour moi, c'est pas tout à fait le cas. La musique, c'est quelque chose qui me permet de développer ce que j'ai à l'intérieur de moi, l'émotion, l'ego aussi, parce que quand on montre quelque chose, bon, il y a quelque chose où on a un petit peu brillé. C'est pas que je cherche à briller, mais bon, voilà, il y a quelque chose dans ce sens-là. Mais la thérapie et la musique, pour moi, la musique, c'est ce qui me permet d'exister en tant qu'être social, créatif. La thérapie, thérapie, c'est autre chose, et la spiritualité est autre chose aussi. Mais elles sont liées, bien sûr. Il y a une relation entre ces trois. La thérapie que je peux proposer aux gens, puisque je suis psychanalyste, psychothérapeute, psychologue aussi. La musique, qui est mon domaine intérieur. Et puis après, une recherche peut-être plus profonde, qu'on pourrait dire spirituelle. Voilà, tout ça est lié pour moi, en fait. Voilà.
Et Luc, est-ce que tu as chanté ou tu... Et plus quand même guitariste, compositeur. Est-ce que tu as un petit peu chanté quand même à un moment
donné ?
Oui.
D'ailleurs, je tenais un des derniers disques que j'ai fait, qui est un disque un petit peu complémentaire de Living and Dying, qui sera un disque anecdotique pour les fans, ceux qui aimeront le disque, qui pourront acheter ce disque-là, parce que c'est un disque qui propose toute la préparation sur 30 ans, parce que cet album s'est fait à peu près depuis les premières compositions sur 30 ans. Donc c'est un long cheminement. Ce qu'il y a dans cet album, c'est que j'ai chanté. J'ai commencé à chanter. Les textes ont été écrits en anglais par ma compagne Marie-Pierre Beaulieu, qui est docteur en anglais et qui a écrit les textes. Mais bon, quand elle m'entendait prononcer l'anglais, en fait, elle disait non, il y a des fautes. Alors j'ai travaillé. Mais elle disait non, il y a trop de fautes, c'est pas possible. Alors j'ai essayé de trouver bien sûr d'autres personnes pour interpréter ce que moi-même je voulais interpréter. C'est un peu une frustration, mais bon, voilà. Et j'ai travaillé avec une première chanteuse, qui n'a pas pu être dans le disque parce que son anglais aussi n'était pas vraiment très bon. C'était une bonne chanteuse, mais voilà. Et j'ai trouvé bien sûr Anna H, qui elle est une anglo-suédoise et qui chante impeccablement, qui est une grande professionnelle, une fille charmante, très douée, très belle voix. Et en plus, elle avait la même coloration de voix que la première chanteuse que j'avais pris. Par contre, sur le deuxième disque, qui sont la préparation de ce disque-là, je chante sur des morceaux. Cette chanteuse, donc, que je n'ai pas pris pour cet album, chante aussi sur ce disque de préparation. Et c'est très intéressant de les entendre, parce que c'est quand même très bon. Mon niveau n'est pas trop mauvais, mais bien sûr, par rapport à Nash et à la production de Michel et Yann, voilà, je suis un petit peu en retrait.
Oui, effectivement, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de Living and Dying, donc un album qui est sorti il y a quelques mois.
Oui, il y a...
Autoproduit.
Oui.
Oui, autoproduit. Hein.
Alors, c'est complètement une autoproduction, et la production artistique a été faite par moi-même et par Michel et Yann.
Up and Down, c'est un label que tu as créé.
Oui, c'est pour donner une raison un petit peu à toute ma discographie. Aujourd'hui, j'ai à peu près 20 disques sortis depuis 79. Et Up and Down, oui, c'est une sorte de raison d'être de label. C'est pas un label officiel, mais je donne cette raison d'être sur lequel rentre toute ma discographie et les livres aussi que je peux faire.
Et ce nouvel album est assez spirituel aussi,
oui.
Dans sa façon d'enregistrer et puis tout ce qu'il y a autour. Et il y a quand même aussi des illustrations tibétaines, plus précisément.
Tibétaines, oui. Oui, c'est lié sur le concept de la vie et la mort, donc la roue de la vie des Tibétains, qui est un symbole très très fort au Tibet et en Inde, et qui propose justement dans cette roue de la vie un certain cheminement sur la vie, et en considérant que la vie est le complémentaire de la mort, et la mort est le complémentaire de la vie, donc c'est un cycle ininterrompu.
On va écouter un premier extrait de cet album, disponible auprès de disquaires spécialisés. Est-ce qu'il est un petit peu aussi en vente sur le Val d'Oise ?
Il y a très peu de disquaires dans le Val d'Oise, très très peu de disquaires. Hein. Bon, il y a la FNAC à Pontoise, il y a quelques...
Il y a Cultura à Franconville.
Il y a Cultura donc à Franconville. Il est surtout en vente à Paris, dans différentes boutiques, et entre autres chez la plus grande boutique, parce qu'aujourd'hui c'est la plus grande boutique de France, c'est Gibert, Joseph Gibert, puisqu'ils ont tous les imports. Et donc eux me soutiennent particulièrement, oui.
On écoute un morceau qui s'appelle I'm Lost.
Oui, I'm Lost. Ouais.
Donc c'est la piste 10 de cet album. Luc Mariani, mais aussi Jean-Luc Kuczynski.
Bien sûr, on l'a fait
beaucoup
à deux.
On va parler de toute façon de tous les interprètes et de tous ceux qui ont travaillé
sur
cet album, parce que vous êtes une multitude. Hein. Et l'album s'est enregistré ici, sur le Val d'Oise, principalement.
Alors,
les prises de son ou pas ?
Il a été, toute la partie instrumentale a été faite pendant 3 ans à Bordeaux, avec un ingénieur du son absolument merveilleux, charmant, très humble, Benjamin Mando. Mais quand on a enregistré les voix ne collaient pas, comme je t'ai dit, avec la chanteuse. Bon, il y avait beaucoup de difficultés, surtout avec l'anglais. Et donc, je me suis retrouvé un petit peu avec ces instrumentaux et je savais pas trop comment faire. Et je me suis retrouvé avec les bandes. Je me suis dit, bon, comment je vais terminer l'album ? Et comme par hasard, j'ai rencontré Michel et Yann, qui est un grand professionnel, qui est quelqu'un qui a travaillé à Hérouville, qui travaille à ICP, qui va produire son prochain album Ubac, qui est une petite merveille aussi, que je t'en donnerai un exemplaire pour que t'écoutes, c'est quelque chose de très bon. Et lui a écouté le projet, on est devenus amis depuis, il a écouté le projet, puis ça l'a vraiment intéressé, et il l'a terminé dans son propre studio avec moi, et il m'a proposé donc cette chanteuse Anna H, que tu connais aussi, parce que vous avez programmé pas mal de morceaux d'elle.
Oui, puis elle a fait une comédie musicale, ou plusieurs, en tout cas, voilà. Elle est toujours dans le circuit. Hein.
Oui,
on va reparler aussi de cette interprète dans un instant. Living and Dying, c'est le dernier album de Luc Mariani. Il est avec nous ce matin sur IDFM. Découvrons le morceau I'm Lost. Living and Dying, c'est le dernier album de Luc Mariani. Extrait de cet album, nous étions avec le morceau I'm Lost. Et là, la voix, c'est celle d'Anna H. Hein.
C'est Anna H qui chante sur tous les morceaux et qui fait les voix. Et il y a quelques voix qui sont faites par la chanteuse qui était prévue, Joëlle Kudzinski, la compagne, une amie, et la compagne de l'arrangeur, donc Jean-Luc Kudzinski, puisque c'est un album qui n'est pas uniquement de moi. Moi, je suis le compositeur, mais Jean-Luc Kudzinski, qui est mon ami historique, Eric, parce qu'on a commencé à faire de la musique ensemble à 14 ans, justement, en découvrant ensemble les Pink Floyd. Et ce disque a une notation particulière, parce que dès que je l'ai rencontré à 14 ans, j'étais en internat, donc à Provins, et c'est un ami, tout de suite, on a, comme si on avait toujours été amis depuis la nuit des temps, et donc j'avais toujours le projet avec lui, ce qui est spécifique, de faire un disque. Et après 74, je l'ai plus revu. J'ai quitté l'internat en 72-73. J'ai revu encore une fois en 74 et je l'ai plus revu. Et j'avais toujours ça en tête. Et 33 ans après, en 2007, je reçois un appel et il me dit tu es bien Luc Mariani? Il dit bah tu sais, on s'est connus. Ah bah je dis bah oui. Et je pensais à lui sans cesse, tous les temps d'heure. Je dis faut qu'on fasse un disque ensemble. Et à un moment, donc il m'a appelé en 2007. Je lui ai proposé ce projet qui était un projet qui n'arrivait pas non plus à finir. Il a écouté, il m'a dit, bah, écoute, je vais reprendre toute l'écriture, je vais faire toutes les partitions du morceau en fonction de ce que tu as fait, en étant très, très respectueux, et puis on pourra le faire ensemble, voilà. Mais ça a mis quand même plus de 10 ans, 12 ans pour réaliser ce projet, parce que, bah, il y a des montées, il y a des descentes, up and down, justement, et bon, il faut gérer les problèmes de la vie, mais je suis très content aujourd'hui qu'il soit, voilà, que ce projet sorte.
Enfin, Up and Down, donc c'est le label qui a été créé pour la sortie notamment de ce dernier album. On va en reparler dans un instant. Nous sommes toujours avec un artiste valoisien de Deuil-la-Barre, c'est Luc Mariani. Et on écoutera un autre morceau, sûrement Singing for You ou un autre titre. En tout cas, un album à apprécier tranquillement à la maison.
Oui, oui, oui.
Il faut bien écouter les accords, les voix. Même si on comprend pas l'anglais, c'est pas trop gênant, oui. en quelque sorte. À tout de suite, Luc Mariani sur IDFM Radio. C'est un immense plaisir d'accueillir ce matin Luc Mariani, psychothérapeute, musicien, un peu chanteur, guitariste. Il vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Living and Dying. C'est un Valdoisien depuis toujours. Valdoise ou pas?
C'est ce que je dis toujours. Je suis né dans un triangle et je me suis déplacé dans un triangle de 7 km, 8 km entre Argenteuil, Sannois où je suis né, Saint-Leu-la-Forêt où mes parents habitaient, Deuil-la-Barre et puis Argenteuil, ben je l'ai dit, voilà. Et j'ai toujours œuvré dans ce triangle des Bermudes, on va dire.
Et journaliste musical, plus dans la presse rock quand même.
Oui, plus dans la presse rock. Oui, mais non, j'étais journaliste aussi. Parce que je m'en rappelle plus trop maintenant, parce qu'il y a longtemps, mais j'étais journaliste dans Yoga Magazine, dans Bouddhisme Actualité. J'ai fait beaucoup d'articles sur la psychologie et sur le bouddhisme tibétain, oui.
Et pas trop de télé, finalement.
Non, j'ai jamais aimé l'image.
Et pas forcément se montrer, mais écrire. Être plutôt en retrait?
Non. Justement, tout le but un peu de la musique et tout, c'est de générer des images, c'est-à-dire de créer des sons, de créer des atmosphères, de créer des concepts pour que les gens créent leurs propres images. J'ai rien contre la télé, mais personnellement, je n'en aurais jamais fait parce que je trouve que c'est trop compliqué de gérer à la fois le son et l'image. J'ai toujours eu un problème d'ailleurs, très intéressé par l'image aussi, mais je peux pas faire les deux. Et très tôt dans ma vie, je me suis branché uniquement sur le son, sur tout ce qui était, comme j'ai dit un peu au début, tout ce qui était sonore, c'est-à-dire sans aucune restriction. Aussi bien les documents sonores, les bruitages, les rythmes, la musique électronique, la mélodie, le chant. Je me suis branché très tôt sur le son et l'image, c'était trop. Ça aurait rempli ma vie à 100%. Donc j'avais besoin d'espace. Donc voilà, j'ai choisi uniquement le son et la musique.
Et Luc Mariani, tu as rencontré énormément aussi de chanteurs, d'artistes. Hein,
oui, j'ai interviewé beaucoup de gens.
Et écrire des chroniques en rapport avec des disques que vous receviez à la rédaction, mais aussi des fois des échanges, des interviews avec certains artistes du moment, que ce soit anglais ou français.
Absolument, j'ai rencontré par exemple des gens de Genesis, Steve Hackett, le guitariste talentueux de Genesis, j'ai rencontré Michel Polnareff, j'ai rencontré Gérard Manset, j'ai rencontré Gabriel Yacoub de Malicorne, oui j'ai fait à peu près, et à cette radio aussi, je suis resté 23 ans donc sur cette radio aussi, je faisais l'émission émission à la recherche du temps présent et Absolutely Live. Et j'ai un jour, je me suis amusé donc à compter le nombre de personnes que j'avais invitées et ça touchait 250 à peu près de 250 interviews. Et dans le journalisme, j'en ai fait à peu près pareil, 100, 150, 200 peut-être personnes.
Et au début, donc rencontrer tous ces artistes, c'était tu t'es imprégné aussi de leur enveloppe musicale et ça t'a donné aussi peut-être envie d'explorer aussi et de composer, de chanter éventuellement, mais surtout de sortir ta guitare et de voir si tu y arrivais aussi.
Oui, c'était un peu un défi parce que c'est des gens, quand j'ai commencé, qui étaient déjà très installés dans le métier ou voire très populaires, et c'est vrai que c'est une dynamique, oui, c'est une grande dynamique. Oui.
Tu as parlé tout à l'heure des Pink Floyd, d'ailleurs, un de tes albums, c'est plus ou moins Pink Floyd.
Oui, c'est
Beyond Break Walls.
Walls, oui.
D'ailleurs, les Pink Floyd, il y a le 50e anniversaire.
Oui, de Dark Side of the Moon. Et il paraît que Roger Waters, j'ai entendu ça, est en train de refaire complètement l'album, tel qu'il voulait le faire lui, parce que l'album qui est sorti, qui a obtenu un succès énorme, c'était un des albums les plus vendus du monde depuis la création du disque, le troisième, je crois, Dark Side of the Moon. Et Roger Waters a dit qu'il avait enregistré, mais il y avait David Gilmour, il n'était pas tout seul, et il y a plein de choses qu'il voulait faire et qu'il n'avait pas pu faire, donc maintenant il allait réenregistrer pour le 50e anniversaire seul. Donc je l'attends avec impatience.
On entend un peu ça aussi par moment dans ta musique, ce côté Pink Floyd.
Oui.
Eux, ils aimaient faire des morceaux longs, des belles envolées. Oui. Ils n'étaient pas dans les codes à faire un morceau de 3 minutes 50. Ils s'en fichaient de tout ça.
Oui, absolument. Et j'ai fait d'ailleurs un disque en 96 qui s'appelle. Alors, le disque s'appelait Up and Down, Celtibit. Et c'est un disque qui a été produit par Musea, la maison de disques française, qui a réédité beaucoup de groupes de chanteurs français de toutes les époques. Et ils ont produit le disque. Et ce disque est un hommage à Pink Floyd également. Ça s'appelle Up and Down. Et le disque est encore disponible, d'ailleurs, parce que je l'ai réédité en CD. Et le disque est disponible. Et c'est un album concept de 12 morceaux qui est fait à la méthode de Pink Floyd et de Dark Side of the Moon ou de Echoes.
Tu aimes un petit peu tout ce qui touche à Pink Floyd. En tout cas, tu rejettes pas même certains artistes qui chantent du Pink Floyd, puisque je sais que tu as apprécié durant quelques années mon oncle, notamment, qui avait formé un groupe autour
des
Pink Floyd. Bon, aujourd'hui, il est passé à autre chose. Et tu suivais régulièrement.
Les gens qui.
Parce que, en tout cas, pour toi, c'est les artistes qui restait fidèle et qui arrivait en tout cas à reprendre l'âme des Pink Floyd.
Oui, les Pink Floyd sont une énorme influence. Hein. T'as quelques groupes comme ça, les Zeppelin, les Rolling Stones, les Beatles, les Pink Floyd. T'as quelques groupes AC/DC pour le hard rock et c'est des groupes qui ont motivé des dizaines et des centaines de groupes dans le monde entier. Et les Pink Floyd. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le Pink Floyd se joue un peu comme la musique classique. On reprend aujourd'hui Mozart, Beethoven, Bach et aujourd'hui on reprend Genesis, on reprend Pink Floyd, on reprend ces groupes-là.
C'est le patrimoine.
Oui, c'est ça. Oui.
Luc Mariani, Living and Dying, donc nouvel album avec la famille Kuczynski.
Le papa,
la maman et le fils qui ont travaillé avec toi sur cet album. Ouais. Des amis, donc toi tu as composé, tu as produit cet album de 12 nouvelles pistes avec Anna H, comme tu l'as dit, qui intervient sur la totalité des pistes. C'était important que ce soit donc une femme qui soit plus en avant sur cet album, sur cet enregistrement.
Oui, parce que j'ai toujours été impressionné par l'énergie féminine. Enfin, pour moi, si je fais de la musique, c'est aussi pour l'énergie féminine qu'elle représente. Et les chanteuses ont toujours eu un grand intérêt pour moi. Et entre autres, Anna H, ou même Joël Kuczynski.
Donc un album qui évoque la vie et la mort, comme on l'a dit.
Oui.
Et par rapport aux Tibétains surtout. Hein.
Oui. Bah la pochette est faite uniquement.
Alors qu'il n'y a aucune sonorité.
Non, il y a aucune sonorité tibétaine. C'est pas un album de world music où j'aurais employé des voix tibétaines, du chant harmonique et des instruments.
Est-ce que ça aurait
traditionnels
pu quand même ou pas?
Oui, pourquoi pas.
Mais ce n'était pas en tout cas le but recherché.
Non, là c'était faire un disque vraiment occidental, dans la tradition pop-rock progressive, mélodique, harmonique, et de mettre une chanteuse, ça c'était très important, oui, l'énergie féminine. J'avais essayé de le chanter moi-même au tout début, il y a quand je l'ai composé, il y a 25 ans, mais bon, comme je t'ai dit, mon anglais n'était pas bon, et puis je voulais vraiment mettre une chanteuse de toute façon dans tous les cas.
Donc. Alexia Peschora aussi participe à cet album.
Oui, absolument. Il y a beaucoup de femmes d'ailleurs dans cet album. Il y a Elisa Dignac aussi, donc au violoncelle, Alexia au violon, une très très belle violoniste. Il y a aussi Jean-Luc Kudzinski, il y a son fils, donc Raphaël, qui joue du violoncelle également, et puis Michel et Yann, bien sûr, à la production.
Et sa compagne aussi à...
Oui, donc Joël, qui était la première chanteuse normalement prévue, mais j'ai gardé quand même des chœurs, parce que les chœurs sont très très beaux, et j'ai gardé des chœurs qui se mélangent avec les chœurs de Anna Englund, donc Anna H.
Est-ce que Anna H, éventuellement, lors d'un de ses concerts, ou même pas, est-ce qu'il y aura aussi un concert? Est-ce que c'est prévu autour de ce projet Living and Dying?
Non, pas de concert. J'ai jamais fait de concert, justement, peut-être parce que, comme je t'ai dit au début, trop peut-être introspectif et un petit peu peur de la scène, et je pense pas qu'il y aura de concert. C'est pas que ça me fait peur non plus, j'aime bien les défis, enfin, d'y aller, mais ça demande un travail tellement spécifique, parce que la composition, t'es chez toi, tu travailles à 2h du matin, tu composes, tu te couches à 5h, tu peux faire ce que tu veux. Alors que la scène, bon, t'as un concert le 23, le 24, 25, 26, 27, tu enchaînes, et je suis pas très très bon dans la rapidité, si tu veux. Il me faut beaucoup beaucoup de temps pour faire les choses, beaucoup de méditation, beaucoup de réflexion, de remise en cause, et c'est pour ça que la scène n'est pas... Et puis dans la musique, j'ai constaté, depuis que je fais de la musique, depuis maintenant pratiquement 50 ans, j'ai commencé en 73, les premiers enregistrements, donc ça fait 50 ans aujourd'hui, pratiquement, j'ai toujours eu beaucoup de mal, je faisais quelque chose, je l'écoutais, c'était super. J'essayais de le refaire, ça me demandait un effort absolument incroyable. Donc j'arrivais pas à... Alors après, j'ai pris des cours de musique classique, des cours de guitare classique, de piano, et le professeur s'arrachait les cheveux, parce qu'il me disait... Donc il me présentait une partition, je la travaillais, je suis très très besogneux, très travailleur, je travaillais. Puis après il me dit, bon bah écoute, on va reprendre une variation, c'est la même, mais tu vois, le 1 il est en 3, le 3 est en 2, et le 2 est en 1. Donc tu la joues. Incapable de la jouer, c'était les mêmes rythmes, les mêmes harmonies, incapable de la jouer, il fallait que je la refasse comme quelque chose de nouveau. Donc je ne peux faire que des choses nouvelles et motiver des gens, surtout sur ces projets. Ça, je pense que c'est une de mes qualités, c'est que j'ai la persévérance et la particularité de motiver des gens sur mes projets. Et donc à chaque fois, tous les disques que j'ai sortis, c'est toujours des rencontres de personnes. Ça ne se fait que par des rencontres de personnes, parce que moi-même, je ne peux pas tout faire. Voilà.
Il y a un sous-titre aussi à cet album, hein, donc c'est Living and Dying, oui. Et le sous-titre c'est...
Alors le sous-titre c'est
Celtibit,
c'est un jeu de mots, je te laisse...
Deux. En hein, plus, volume
le volume 2. Alors, c'est très important que tu dises ça, parce que j'avais complètement oublié. Le premier, justement, c'était Up and Down, qui était Celtipede volume 1, qui était un hommage au Pink Floyd, et qui était un album composé complètement de façon originale, avec des mélodies qui n'existent, enfin, qui sont des créations. Et quand j'ai réalisé ça, j'avais mis Celtipede volume 1. Et le volume 1, je l'ai terminé en 96, donc il y a quand même 27 ans. Et je me disais, mais s'il y a un volume 1, c'est qu'il y a un volume 2. Et il s'est trouvé que celui-là rentrait dans le volume 2, c'était le même concept avec chanteur, chanteuse, puisque j'ai eu aussi la chanteuse de Ange dans le premier disque, donc j'ai eu des grandes chanteuses, hein. Ça c'est super. Et donc le volume 2, et il y aura un volume 3 que les compositions sont faites, et il sera fait peut-être dans 2, 3, 4 ans, je sais pas à qui je vais le faire, peut-être Michel et Yann, il a écouté les compositions, il est intéressé, et qui s'appellera Peace and Love, et qui sera le volume 3. Alors Celtibit, je te laisse chercher, il y a un jeu de mots, il faut que tu le mettes à l'envers et tu trouveras le jeu de mots. Alors au début, le titre c'était Celtae B. Celta et Bit. Et puis après, j'ai rajouté Bit parce que ça avait le rythme. Mais il y a un jeu de mots dans le. Donc ça veut dire les rythmes celtiques, si tu veux, si on le prend, si on le prend au sens premier. Mais il y a autre chose qui apparaît dedans. C'est un hommage.
Là,
en fait.
Comme ça, je vois pas.
Mais je le dis pas. Ça, il faut le trouver.
D'accord. C'est une énigme.
C'est une énigme, voilà.
Merci beaucoup.
Comme dans ce disque, il y a une énigme aussi, c'est qu'il y a un morceau clashé de 9 minutes. Voilà. Donc il y a un morceau qui n'est pas marqué sur le disque, mais que les gens découvrent. environ. C'est un cadeau.
Ça se faisait beaucoup il y a une certaine époque. Ouais.
Et j'ai repris ça parce que je trouve ça très intéressant.
Quand on lisait l'album, des fois on se dit mais c'est bizarre,
c'est quoi,
la
ce
piste
morceau,
12
ouais.
se poursuit, il y a un blanc et derrière il y a un autre morceau.
C'est pareil.
Donc là aussi, après le morceau Clémentine.
Voilà, il y a quelque chose, il y a un grand blanc.
Une surprise.
Voilà, et il faudra que les gens attendent le blanc. S'ils n'attendent pas le blanc, ils couperont, ils n'auront pas le cadeau.
Merci beaucoup Luc Mariani, Living
Merci à toi, Christophe.
Nouvel
Merci.
Album est disponible notamment chez Gilbert Joseph à Paris.
Oui, entre autres, et puis ça sera disponible aussi dans il y a une petite boîte qui me distribue de disques, qui me distribue au Danemark. Il y en aura en Angleterre aussi, il y en aura à peu près partout, à des petites quantités, mais voilà, il sera assez bien diffusé.
Et nous écoutons maintenant de cet album le morceau Singing for You.
Oui, ok.
À bientôt.
C'est celui que j'ai rêvé, Singing for You en plus.
Oui, en plus, c'est vrai. À bientôt, bon week-end.
Merci, Christophe.